Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio de la Paix. Regard croisé sur l'actualité, la rétrospective de l'actualité de la semaine est essentiellement dominée par des sujets d'ordre politique. Nous aborderons donc successivement le 20e anniversaire de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire avec la rébellion. Et 20 ans après, avons-nous tiré les leçons de cette sombre parenthèse de notre histoire? Nos invités se prononceront sur la question. Ils commenteront aussi l'annonce faite par l'UDPCI évoquant le statut d'ancien chef de l'État désormais reconnu à feu le général Robert Guéhi, son fondateur. Nos invités vont également débattre des grincements de dents sonores entendus du côté du PDCI et du PPACI relativement au processus en cours du renouvellement des bureaux des commissions électorales locales. Nous parlerons également de la célébration de la Journée internationale de la paix et enfin, nous reviendrons sur le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est, entre autres, penché sur la situation des 46 soldats encore détenus au Mali. Pour croquer toute cette actualité, nous recevons deux hommes politiques, M. Yaya Fofana, le président du MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir, et en face de lui, M. Lianyan Ferdinand, il est le vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Messieurs, bonjour.
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 Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le 19 septembre 2002, un putsch manqué se muait en une rébellion armée et qui allait profondément fissurer la Côte d'Ivoire pendant environ 10 années de crise militaro-politique. 20 ans après, avons-nous tiré les leçons de cette tragique période de notre histoire? Je vous propose l'avis de deux acteurs politiques. Écoutons tout d'abord celui de Justin Kone-Katina, le porte-parole du PPACI, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire.
C'est que moi, je viens de faire une tournée au Nord et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de populations du Nord s'interrogent la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nord comme au Sud, partout, elle en souffrance, il ne faut pas qu'on se les cache.
Alors donc, pour vous, pour que cette réconciliation se fasse en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, du Nord au Sud?
Il faut tout simplement que ceux qui ont pris les armes en 2002 reconnaissent qu'ils ont eu tort, deuxièmement, et qu'on appelle à un dialogue franc et sincère dont les résolutions, une fois prises, sont appliquées de tous et que nous ne piégeons pas avec la réconciliation. Ça, c'est important. Tous les pays qui ont eu des crises, quand ils sont sortis de ces crises-là, ils ont posé des actes d'humilité et irréversibles vers la paix. Je vous donne un exemple tout simple. On nous l'a promis, on peut bien payer que nous rentrions à la CEI. Au moment où nous sommes en train d'attendre notre entrée à la CEI opère à la restructuration de ses structures locales. À quoi rime ce jeu-là? Est-ce que c'est vraiment un jeu du concours à la réconciliation? Donc nous nous interrogeons si effectivement les uns et les autres ont tiré leçon de cette crise-là. Pourtant, nous devons tirer tous la leçon.
Voici l'avis de l'ex-ministre Joël Nguessan, cadre du RHDP, qui estime que seuls les hommes politiques le voient encore avec la réconciliation.
La première leçon qu'on a pu tirer, c'est que pendant que le pays était en paix, il y a eu une rébellion qui s'est déclenchée. Personnellement, j'estime que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de cette rébellion.
Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour la réconciliation?
La réconciliation n'a rien à voir avec la rébellion. Parce que le problème qui a été posé, c'est qu'il y avait des Ivoiriens qui estimaient qu'ils étaient exclus de l'environnement social et politique ivoirien. Et puis, il y avait d'autres qui disait que non, il fallait créer les conditions pour faire partie, surtout à cette période-là, le président de l'époque.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire du Nord au Sud, est-ce que c'est possible pour les populations d'être réconciliées ou bien les populations déjà entre elles, ça va?
Les populations ivoiriennes sont totalement réconciliées. Au Nord, au Sud, c'est des populations qui vont au marché ensemble, au champ ensemble, qu'ils soient des bétés, des baoulés, ils n'ont aucun problème. Les seules personnes qui ne sont pas réconciliées parce que ces personnes ont des agendas politiques personnels, ce sont les hommes politiques. Chacun veut être au pouvoir ou bien chercher à enlever celui qui est au pouvoir. Donc, ils vont de leurs agendas individuels.
Bien, messieurs, on vient d'écouter donc deux avis différents sur la crise militaro-politique du 19 septembre 2002. C'est à croire que chacun a sa version, chacun a son histoire, chacun a ses leçons à tirer de cette sombre page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Yaya Fofana, est-ce que nous avons justement tiré les leçons de cette crise?
Je vous remercie. Ce 20e anniversaire, ce qu'on peut dire, était diversement célébré. Il faut dire que la rébellion même c'est quelque chose qui est déjà condamné puisque personne n'est pas accepté une rébellion armée dans son propre pays. Mais pour certains qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont estimé que c'est une promotion de la démocratie, c'est une révolution parce que ça les arrange, parce que nous sommes au pouvoir. Mais cette rébellion armée, oui, elle restera peut-être un vieux souvenir pour tout Ivoirien puisque aucune rébellion ne peut être justifiée. Et qu'on n'aurait jamais dû dans ce pays recourir aux armes pour régler un différend.
D'accord, mais est-ce qu'on en a tiré les leçons selon vous aujourd'hui?
Bon, l'enseignement que nous pouvons tirer, car à l'avenir, il va falloir prôner le dialogue au détriment de la guerre. Les produits du dialogue sont, comme vous le constatez, c'est le développement durable et la santé pour tous. Quant à la guerre, elle favorise le contraire des effets. Il faut que désormais les Ivoiriens et les Africains apprennent à s'asseoir autour de la même table pour se parler et surtout qu'ils essaient de jeter les bases d'une véritable démocratie de sorte à ce que personne ne croit que par les armes, il peut arriver au pouvoir ou il peut arriver à ses fins.
Liagnan Ferdinand, alors, cette crise militaro-politique survient au moment où le FPI est au pouvoir en Côte d'Ivoire. D'abord, quelles leçons vous en tirez et pour vous, est-ce qu'on traîne encore les séquelles de cette crise?
Merci Kanté de nous avoir invités encore une fois sur votre plateau. Quand je me rappelle le 19 septembre 2002, c'est un souvenir de toute une génération de bacheliers qui me revient parce que je me souviens que à la veille, le 18, j'avais pris rendez-vous avec le directeur de la scolarité de l'université Philosophe Boigny aujourd'hui, donc l'université de Cocody hier. Et puis le 19 septembre, je n'ai pas pu me rendre à l'université avec mon père. Nous sommes restés quelque part à Djamé, à traîner, parce qu'on n'avait pas déjà les moyens suffisants pour se prendre une chambre d'hôtel. Donc on est resté à la Belle Étoile la nuit et puis on devait se rendre à l'université et retourner dans ma ville natale de Diokwe. Malheureusement, nous sommes restés plusieurs jours à cette Belle Étoile. Je n'ai pas pu m'inscrire à temps à l'université, mais après nous sommes revenus pour régler les choses. Mais ce que je vais retenir aujourd'hui en tant qu'homme politique, le FPI étant au pouvoir hier, c'est que ça a été le faux pas dans l'histoire de notre pays. Ça a été le faux pas dans l'histoire de notre pays. Quand j'entends aujourd'hui ceux qui avaient porté à bout de bras cette rébellion, notamment Soro Kibafuri Guillaume et toute son équipe, quand j'entends Afousata Bamba dire aujourd'hui qu'elle a un profond regret, alors je dirais que c'est un faux pas qui n'aurait jamais dû être fait dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de la recherche de notre jeune démocratie. Parce que ce qui a été avancé, c'est que notre pays n'était pas assez démocratique et qu'il fallait donc apporter du sang nouveau, il fallait changer les donnes et puis les armes ont surgi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes loin de ce spectre de la rébellion? Je dirais non, parce que après donc cette rébellion, la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore véritablement assise pour jeter les nouvelles bases d'un contrat social qui pourrait nous amener à proscrire l'usage des armes et à toujours privilégier le dialogue. C'est pourquoi, tant que nous le pouvons, nous rappelons que les États généraux de la République sont pour nous le socle d'un départ nouveau. Nous le rappellerons chaque jour. Quel que soit le tenant du pouvoir, il faut qu'il sache que les Ivoiriens doivent s'asseoir et projeter ensemble l'avenir.
Mais je rappelle pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique que les États généraux de la République, c'est le projet majeur que porte le FPI de Pascal Afingessan
justement
pour s'asseoir autour
d'un genre
de catharsis pour,
régler les problèmes problèmes de notre République afin que nous puissions dire nous avons retenu des leçons de la rébellion de 2002, il ne faut plus que cela se répète parce que voici les conséquences que nous avons endurées. Et donc, voici ce que les générations futures ne doivent plus subir.
Mmh. Vous avez l'impression qu'on avance sans avoir réglé les problèmes qui ont emmené le 19 septembre 2002?
Oui, moi j'en ai la nette impression que nous avançons. Et je pourrais dire que nous naviguons à vue. Nous faisons le minimum sans faire véritablement l'essentiel.
Mm-hmm. Cheikh Fofana, c'est votre avis?
Pour moi, c'est un vieux souvenir. On n'en parle plus. Je pense que nous sommes inscrits dans un processus de réconciliation, comme on l'a dit. Il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, c'est les acteurs politiques qui ont pratiquement un problème. Donc, je pense que c'est un vieux souvenir et la page est définitivement tournée.
Alors, je voulais quand même avoir votre avis sur... la question des victimes, les nombreuses victimes, justement, de cette crise de 2002 qui s'est achevée pratiquement en 2010 avec plus de 3000 morts, continue de réclamer réparation et indemnisation. Ne sont-elles pas les plus lésées au regard de la situation et des accords politiques qui aboutissent souvent, d'ailleurs, à la libération des auteurs présumés des crimes?
On pourrait dire que quand même des efforts ont été faits avec les différents gouvernements, avec les différents programmes que... Nous avons pu voir ça et là. Mais toujours est-il qu'il y a encore des victimes silencieuses, celles qui n'ont pas pu porter leur voix au grand public. Et c'est pourquoi je dis que le président du MFA a dit tout à l'heure, les Ivoiriens vont bien. Oui, c'est vrai. Les Ivoiriens, entre eux, ils vont bien tant que l'homme politique ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Mmh. Et c'est quand l'homme politique dira un mot, vous verrez qu'entre les Ivoiriens, ça ne va pas. Ça ne va pas. On fait semblant... Aujourd'hui, je suis assis à la même table que lui. Mais il suffit que demain, nos intérêts soient divergents et puis tous nos militants, nos camarades sortiront. Et puis vous comprendrez que vraiment, entre ces Ivoiriens, ça ne va pas. Mais est-ce que les Ivoiriens seront capables de résister aux différents mots d'ordre qui vont contre l'intérêt général? Parce que nous, en tant qu'hommes politiques, nous avons des calendriers.
Vous engagez la responsabilité des hommes politiques?
Oui, la responsabilité, oui. Et c'est justement quand on dit que c'est entre les hommes politiques qu'il y a encore des divergences en fonction de leurs différents calendriers, cela va sans dire qu'ils vont entraîner avec eux les différents peuples. Est-ce que ces peuples-là pourront être résistants à ces mots d'ordre qui pourront aller contre l'intérêt général? C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas à l'abri, il faudra donc qu'on s'asseye pour parler, mais parler profondément et trouver des solutions qui vont être tenues, qui vont être tenaces et j'allais dire qui vont résister à l'usure du temps.
Tu sais pas ce qui se fait dans les différentes phases de dialogue politique? Non? Est-ce que ce n'est pas un autre mode de dialogue que proposent les tenants du pouvoir en ce moment?
Tout à fait, puisque c'est au cours du dialogue, je pense qu'il y a des décisions consensuelles qui sont prises là-bas. Je pense que c'est un cadre permanent qui est mis en place par le gouvernement pour échanger avec les acteurs politiques et les groupements de la société civile. Je pense que c'est déjà important que le gouvernement autour de la table a initié ce dialogue pour qu'on puisse pas se regarder en chaîne de faïence en Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, je pense que concernant les victimes, je profite de l'occasion pour féliciter le président Alassane Ouattara qui a mis en place un ministère de la solidarité, mm-hmm. vraiment qui s'en occupe largement puisque les victimes sont prises en compte. Je ne vais pas rentrer dans les éléments des détails, mais mensuellement, il y a des victimes, il y a des personnes démunies qui reçoivent quelque chose de l'État.
Quant à la responsabilité des politiques dont parlait M. Lianyan Ferdinand, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que, c'est vrai, les populations n'ont certes pas de problème majeur entre elles, mais il suffit que les hommes politiques arrivent à les instrumentaliser, que tout part en vrille?
Mais c'est pour cela, bon, avec le dialogue politique qu'on a instauré, peut-être on a demandé à tous les acteurs politiques d'avoir le bon ton. Et en s'adressant aux populations, à leurs militants, parce qu'aujourd'hui, je pense que les militants ne sont pas suffisamment formés pour pouvoir comprendre ce que les acteurs politiques véhiculent comme message. Et donc, comme nous sommes dans un pays de paix, moi, j'encourage aussi et j'exhorte tous les acteurs politiques à avoir le bon ton pour que vraiment on puisse raffermir nos liens en tant qu'Ivoiriens.
Alors, toujours en rapport avec 2002, lors de la commémoration donc, des 20 ans de la mort du général Robert Guéhi, fondateur de l'UDPCI, sa fille, Mireille Guéhi, par ailleurs députée de Biankouma, annonçait l'obtention du statut d'ancien chef d'État pour son père. Des allégations confirmées ici par le secrétaire général de l'UDPCI, Jean Blé Guirao, que je vous propose d'écouter.
Nous nous sommes battus pour que véritablement le président Robert Guéhi, qui a signé la constitution de 2000, ait le statut d'ancien chef d'État et que sa famille politique et sa famille biologique puissent bénéficier de tout ce qui entoure cela. Le 8 septembre dernier, nous avons été heureux lorsque le président a annoncé qu'il prenait toutes les dispositions pour réhabiliter le général Robert Guéhi. Les dispositions ont été prises, donc le président Robert Guéhi réhabilité en tant qu'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire.
Mais cette reconnaissance a-t-elle un lien avec le dialogue politique ou avec le retour de l'UDPCI au RHDP?
Ben, je dirais que les deux sont liés. Au-delà de l'UDPCI, par la voix de son président, Dr Mabri, a posé le problème véritablement de la reconnaissance du statut d'ancien chef d'État du président Robert Guéhi. Il a été posé en bonne et due forme sur nos plateformes. Ensuite, il y a eu le dialogue politique. Après le dialogue politique, il y a eu la rencontre. Je voulais vous informer que la politique, pour nous enseigner, c'est la seule appréciation des réactions du mouvement Bonne Nouvelle. Nous reconnaissons, nous, à l'instant T, nous admettons que celui qui a réhabilité le président Robert Guéhi a un nom, c'est le président Alassane Ouattara, et pourtant nous voulons lui dire merci.
Au plan matériel et financier, que gagne votre parti, que gagne la famille biologique de feu Robert Guéhi avec cette reconnaissance du statut d'ancien chef d'État?
C'est l'aspect moral. Nous sommes dégagés moralement depuis le 19 ans, la paix du cœur. C'est ce qui, moralement, est pour nous un gain important.
Alors, M. Léagnan Ferdinand, que pensez-vous de cette annonce de l'UDPCI évoquant la reconnaissance du statut d'ancien chef d'État à son fondateur Robert Guéhi?
En tout cas, pour nous, c'est une avancée notable vers la paix. Vers la paix, je me réjouis que l'UDPCI ait aujourd'hui cette joie de voir l'ex-chef de l'État ivoirien, le général Robert Guéhi, bénéficier du statut d'ancien chef d'État, bien qu'il ait été acteur d'un coup d'État en 1999. Et ce grand pas est à mettre à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut résolument conduire la Côte d'Ivoire vers une pacification totale. C'est vrai, on pourrait assimiler cela au retour de l'UDPCI au RHDP, mais notons que depuis 2011, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, il aurait pu donc le faire. Mais aujourd'hui, tous les acteurs de la crise de 2011 sont sur le territoire ivoirien. Nous œuvrons chaque jour à ce que la paix soit notre denrée quotidienne la plus absolue et la plus importante. Et le président de la République en donne des signaux. C'est aussi un grand pas que fait le président de la République quand on regarde les différentes résolutions du dialogue politique qui a eu lieu. Et il fait sa part. Et j'en suis vraiment heureux, j'en suis heureux et que je l'encourage à aller plus loin afin que notre pays reste un havre de paix.
Monsieur Fofana, je vous voyais acquiescer un peu tout ce que disait ce Léagnan Ferdinand, mais moi j'ai une question. Est-ce qu'il est opportun, voire décent, de reconnaître ce statut d'ancien chef d'État à un putschiste?
Ce n'est pas mauvais en soi. C'est vrai que certains juristes procéduriers vous diront qu'il n'a jamais été chef de l'État, mais tout cela répond à une logique de faire en sorte que le pays soit en paix et qu'il puisse tourner définitivement la page de cette rébellion. Cependant, il faut le reconnaître que c'est des discussions qui ont eu lieu au cours du dialogue politique. Et le chef de l'État a acté cette décision. Si ça pourrait apaiser les militants de l'UDPCI et les populations qui se reconnaissent aussi en Guéhi, parce que, comme l'a dit le SG de l'UDPCI, si c'est une reconnaissance morale qui pourrait apaiser le cœur, je pense que je tiens personnellement à féliciter le président Alassane Ouattara.
Mais ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, on vous dira, voilà, c'est une prime. Voilà, encourager les gens à faire des coups d'État. Et puis demain, ils pourront bénéficier des privilèges liés au statut d'ancien chef d'État ou de président, non?
Il y a eu en 2007 la flamme de la paix à Boaké. On était face à un rebelle, Soro Guillaume. Entre le rebelle, Soro Guillaume, à qui la Côte d'Ivoire pardonne ses faits, sinon ses méfaits, et le général Robert Guéhi, qui a fait un coup d'État, lui aussi, à qui devrait-on pardonner en premier? Quand on se retrouve devant cette équation, je crois, ma foi, qu'on dira les deux sont impardonnables. Et pourtant, on a pardonné à Soro Guillaume qui a fait plus de morts. Le coup d'État de Robert Guéhi n'a pas occasionné de morts, véritablement, sinon quelques-uns. Mais la rébellion de 2002 a causé plus de tort à la Côte d'Ivoire, tant au plan économique qu'humain. Mais Soro Guillaume a bénéficié plus ou moins des largesses des Ivoiriens. Accorder donc à Robert Guéhi ce statut d'ancien chef d'État est un acte de magnanimité. Ce n'est pas ouvrir une brèche, mais le chef de l'État veut que la Côte d'Ivoire reste dans une posture de paix. Il veut apaiser des cœurs qui se sont sentis meurtris. Il a posé un acte. Il ne faut pas oublier qu'il reste le premier magistrat de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, tout acte qu'il pose est quand même mûrement réfléchi. Je crois qu'il a des conseillers assez outillés pour prendre de telles décisions. Ce n'est donc pas ouvrir une brèche, en tout cas pour notre part.
Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, la rétrospective de l'actualité commentée cette semaine par Yaya Fofana, le président du MFA, et par Lianyan Ferdinand, vice-président du FPI. Venons à présent à la polémique naissante sur le processus de renouvellement des bureaux des commissions électorales locales par la CEI. L'opération, dans sa phase pratique, est dénoncée à la fois par le PDCI et le PPACI. En début d'émission, le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo, Justin Kouné-Katina, se plaignait du fait de procéder à ce renouvellement alors que le parti est en attente d'intégrer la commission centrale de la CEI. Le porte-parole de cette institution en charge des élections en Côte d'Ivoire a tenu à rassurer le PPACI. Je vous propose d'écouter Émile Brottier, joint par Francis Cassi.
Il faut commencer et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et par la suite, les commissions qui sont mises en place, nous allons les former. Donc nous sommes dans une phase de formation de ces commissaires-là. Et puis bien entendu, quand le PPACI aura rejoint la commission centrale, leurs démembrements seront intégrés à la commission locale. Et dans tous les cas de figure, je voudrais à toute fin vous informer que les commissions locales, leur durée de mandat, c'est la durée d'une activité. Donc à chaque activité, nous renouvelons les commissions locales. Donc ce que nous faisons, nous ne le faisons pas au détriment de certaines entités, bien au contraire. Nous sommes là pour que tout ce qui est validé soit pris en compte à notre niveau. Donc il n'y a pas de péril à la demeure.
Voilà. Alors, donc vous rassurez le PPACI que son commissaire pourra intégrer malgré le lancement de l'installation des commissions locales.
Mais ça s'impose à nous. À partir du moment où il y a une entité qui rejoint la commission centrale, je vous donne un titre d'exemple, le PDCI n'était pas dans les commissions locales, mais quand le PDCI a eu son représentant proposé et nommé, au jour d'aujourd'hui, il y a des représentants du PDCI.
Alors, l'opposition, en l'occurrence le PDCI, s'offusque du fait que le rééquilibrage de la CEI tel que recommandé par le dernier dialogue politique ne soit pas encore effectif, alors que la CEI procède au renouvellement des bureaux des commissions électorales locales. Est-ce que cette inquiétude est justifiée selon vous, M. Yaya Fofana ?
Je pense que cette inquiétude n'est pas justifiée parce qu'il faut noter que quand on regarde la composition de la CEI, l'opposition représente 4 membres sur 3 pour le parti au pouvoir. Et je pense que l'opposition est largement majoritaire là-bas. Et en ce moment, comme le disait le PDCI, il est arrivé à un moment donné de leur existence, ils avaient boycotté les activités de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, ils sont partie prenante et ils sont intégrés. Et toute personne connaît le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Ils ont un chronogramme d'activités régulières. Et à chaque activité majeure, il faut renouveler les bureaux, notamment les commissaires. Et je pense que c'est une élection. Et si le PDCI proteste, je suis au regret de ne pas, c'est pas justifié cette démarche.
Lianyan Ferdinand ?
Oui, ça me surprend quand même.
Pourquoi ?
Ben, parce que le PDCI a participé aux élections de sa commission au plan local. Donc ça me surprend et puis je me demande pourquoi est-ce qu'on conteste quelque chose à laquelle on a participé. Parce que je rappelle, jusqu'à aujourd'hui, le PDCI occupe quand même 19 vice-présidences sur l'ensemble des élections qui ont déjà eu lieu concernant l'installation des CEL, les CER. Dans les régions, les départements et les sous-préfectures. En ce qui concerne le PPACI, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, mais comme l'a dit M. Émile Brottier, c'est pour des actions précises. Il y a à l'horizon la révision de la liste électorale en novembre. Alors, ils sont en train de se préparer et c'est pourquoi il y a donc l'installation de ces différentes commissions locales. Après cela, quand il aura une autre activité, il aura encore une installation, mais nous sommes 4 de l'opposition, donc nous aurons pu prendre l'ensemble des différentes présidences.
Oui, mais est-ce qu'au dialogue politique, ils ont convenu quand même de rééquilibrer la CEI, parce que Le PDCI ou le PPACI estiment que le parti d'Henriette Lagou ne peut pas être considéré comme un parti de l'opposition. Ils estiment aujourd'hui que le FPI s'est fortement rapproché du RHDP pour être considéré comme un parti d'opposition.
Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Le FPI est un parti opposé au parti au pouvoir. Il y a le RHDP qui dirige le pouvoir comme il l'entend. Il y a le Front populaire ivoirien qui s'oppose autant que faire se peut pour que l'État soit géré au mieux des cas. Le FPI n'a encore aucune alliance, n'est dans aucun gouvernement de M. Alassane Ouattara. Et donc, si le PPACI et le PDCI considèrent que c'est un parti qui est plus ou moins rapproché, ben, donc, ils ne nous considèrent pas comme des opposants. Alors qu'on aurait pu, ensemble, créer un Gotha d'opposants et puis gérer toutes les CER, Mais ils sont dans une position que parfois nous nous demandons qui répond à quoi. Nous sommes des partis de l'opposition. S'ils considèrent que nous sommes proches du pouvoir, c'est tant pis pour eux. Et tant qu'ils seront dans cette position,
Monsieur Liang, il y a quand même des discussions entre le RHDP et le FPI.
Est-ce que une discussion...
Même si elles ne sont pas officielles.
Ah, est-ce qu'une discussion officielle a été mise à votre connaissance
pour dire que le FPI... Je dis bien même si elles ne sont pas officielles.
Même les plus officieuses n'ont pas encore eu lieu. Je ne me rappelle pas que nous ayons rencontré officieusement, même d'ailleurs, un tenant du RHDP pour sceller une alliance avec le FPI.
Pourtant, le président en a parlé lors de sa rencontre avec Mabri.
Il en a parlé lors de sa rencontre avec Mabri. Il a dit, nous avons émis le souhait. C'est le FPI qui est demandeur de cette alliance. Et ça, je vous le dis. Mais est-ce qu'il vous a dit que des rencontres ont eu lieu? Non. Donc, nous attendons que ces rencontres aient lieu. Et que s'il
y a quand vous émettez quand même alliance, un souhait, il y a toute la démarche, toute la posture aussi qui va avec. Donc je suppose que le PDC et le PPACI ont raison de ne plus vous considérer comme un vrai parti qui s'oppose au RHDP.
On aurait pu dire ça de l'UDPCI jusqu'à ce que le président de l'UDPCI dise officiellement « je retourne au RHDP ». Pourtant, en 2020, il a pris part à toutes les activités de l'opposition en ce qui concerne la désobéissance civile et tout ce qui est parti avec le boycott des élections. Mais il n'a pas été considéré véritablement comme un opposant. Il a jugé utile. Alors, quand vous êtes dans une organisation où vous n'êtes pas considéré comme il se devait, eh bien, vous prenez des dispositions. Donc, si on nous considère comme un parti trop proche du parti au pouvoir, je me dis, c'est leur vision, c'est leur façon de voir les choses. Nous, pour le moment, nous sommes un parti de l'opposition. Et nous jouons notre rôle en tant qu'opposant.
Qui a demandé une alliance au parti au pouvoir.
Ce n'est pas proscrit, de toutes les façons. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et ce n'est même pas ce quelqu'un qui l'a dit, c'est Laurent Gbagbo qui l'avait dit une fois.
Monsieur Yaya Fofana, quel est l'impact des CEL dans un processus électoral au point de soulever tous ces grincements de dents au sein du PDCI et du
PPAC? Je pense que c'est une administration régulière, dite indépendante, qui veille aussi à la mise en application du jeu électoral. Parce que je pense que tous les représentants des partis politiques qui siègent à la commission électorale indépendante, ils abandonnent leur obédience politique. Ils ne viennent pas pour représenter leur parti politique.
C'est ce qui est dit.
Et donc, je pense que ce n'est pas là-bas qu'on gagne les élections. Il faut aller sur le terrain, il faut aller mobiliser les électeurs. Et ce qui se fait, je pense que le PPAC et le PDC veulent alarmer les populations pour rien, sinon il n'y a pas de péril à la demeure. C'est une activité régulière de la commission électorale indépendante. Comme je vous le disais tantôt sur le président, lors du dialogue politique, il a été décidé de donner une place au PPAC. Si c'est fait, la prochaine activité de la commission électorale, ils vont désigner leurs représentants. Mais il faut noter, même en désignant leurs représentants, ils ne vont pas avec la casquette PPAC pour défendre les intérêts de leur parti politique.
C'est ce qui est dit, mais dans les faits, c'est ce qui se fait.
Mais non, c'est ça. C'est...
On a vu lors du boycott des élections, de la désobéissance civile, les représentants du PDCI et du FPI ont quitté la CEI, la commission centrale. Donc ça montre que ces représentants-là ne sont plus indépendants, ils y sont toujours avec la casquette politique. Mais
vous voyez, nous ne regardons pas les représentants, on regarde le bureau, les commissaires surtout. Je vous le disais tout à l'heure quand le frère a dit que l'opposition est majoritaire dans cette CI, parce que sur 8, ils sont 4. Et il y a beaucoup de localités comme ça où ils ont la présidence, la vice-présidence. Et donc, il n'y a pas de problème. Le MFA, on était, durant plusieurs décennies, on était représentés à la commission électorale indépendante. On peut aussi réclamer notre poste.
Est-ce que vous trouvez normal qu'un parti politique qui n'a aucun élu siège au sein de la commission centrale de la CEI?
Que disent les tests de la CEI? Donc, si les tests sont mieux là-dessus, pourquoi vous voulez que ce soit les hommes politiques qui se prononcent là-dessus?
Non,
Posons donc la question aux députés.
Moi, je vous pose la question en tant qu'acteur politique.
Nous, en tout cas, ne pouvons pas répondre à cela parce que on va dire que ça relève d'un certain pouvoir discrétionnaire et donc on s'en tient à cela.
Tu es un Fofana?
Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous répondre. Les tests sont clairs. Je pense que nous avions demandé à ce qu'une organisation soit mise en place pour vraiment organiser les élections, parce que c'est l'administration qui organisait les élections aujourd'hui.
Je comprends votre réponse très diplomatique à tous les deux, mais la logique voudrait quand même que ce soit les partis les plus représentatifs, les plus significatifs, qui siègent quand même au sein de la commission centrale de la CEI.
Oui, ça c'est ce que vous pensez qu'il devait être juste. Est-ce que entre 2005 et 2010, le RHDP avait des députés? Non.
Ils avaient d'autres élus, ils avaient des maires.
Ils avaient des maires, mais est-ce qu'ils avaient des députés des...
Non, donc, moi je parle d'élus, j'ai parlé d'élus, je n'ai pas parlé de députés.
Oui, voilà. J'ai dit
un parti qui n'a aucun élu
Les différentes réformes de la CEI ont fabriqué ce que vous voyez maintenant. Et je crois que ça a été un consensus entre les différents acteurs politiques qui étaient là en ce temps-là, qui ont accepté
Je vous pose la question différemment. Il faut réformer selon vous?
La CEI.
Dans sa configuration actuelle?
Oui, tout compte fait, on en demande chaque jour. On demande qu'elle soit réformée à la perfection. Et ça, je crois que ça se trouve même dans les lignes du dialogue politique qui ont eu lieu. Mais pour cette élection des CEL et trucs, je me dis qu'on peut aller et progressivement aboutir à cette réforme que nous attendons.
Et n'oublions pas qu'il y a 2023 qui est tout proche.
Oui, qui pointe à l'horizon, tout compte fait.
Bien, je vous invite à nous pencher maintenant sur la situation de 46 de nos soldats encore détenus au Mali. À la tribune, lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a demandé de nouveau leur libération sans délai et a même proposé aux pays africains l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacqueville pour la formation de leurs hommes sur la question. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali. Ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Le terrorisme continue de représenter une menace majeure contre la paix et la sécurité internationale. Afin de contribuer à cet effort collectif, la Côte d'Ivoire met à la disposition des pays africains l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, structure basée dans la ville balnéaire de Jacqueville, qui forme à tous les métiers civils et militaires de la lutte contre le terrorisme.
Alors, messieurs, le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu ce jeudi à New York, en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, a également évoqué la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, et les dirigeants ouest-africains ont demandé à trois des leurs, notamment les présidents Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana et Fornia Singwe du Togo, de se rendre à Bamako dès mardi prochain pour obtenir une issue à cette crise. Alors, est-ce que pour vous, c'est la médiation de la dernière chance?
Oh, il n'y a pas de médiation de dernière chance. Tant qu'on le peut, il faut privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie. Et dans le cas actuel des 46 soldats ivoiriens, bien entendu, le chef de l'État a réclamé leur libération sans condition. Je crois qu'il a été suivi dans ses propos par le secrétaire général de l'ONU. Et j'en appelle à une vision plus claire et profonde des autorités maliennes pour saisir quand même cette chance que l'ensemble des chefs d'État donnent au Mali de rester une terre de paix, bien qu'elle ait été pendant plusieurs décennies au centre de plusieurs coups d'État. Nous espérons que les autorités maliennes actuelles aient le sens plus élevé de la démocratie et le sens élevé de la courtoisie, de la diplomatie, afin que les relations bilatérales entre les deux États frères que représentent la Côte d'Ivoire et le Mali restent au beau fixe. Donc pour nous, ce n'est pas une négociation de la dernière chance. Il faut continuer. Et je crois que le chef d'État ivoirien continue sur cette voie en renforçant les démarches diplomatiques afin que les 46 soldats ivoiriens reviennent le plus tôt possible.
Monsieur Fofana,
je crois que cette solution est d'abord entre les mains des autorités de la junte malienne. Ce sont elles qui ont des otages. Ce sont elles, parlant des autorités de la junte au pouvoir, qui vont nous faciliter la tâche en libérant les 46 autres soldats. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a emprunté la voie du dialogue et de la diplomatie. C'est vrai qu'elle est lente, mais nous la maintiendrons jusqu'à ce qu'une issue favorable soit trouvée. Par ailleurs, il faut noter que l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt à infantiliser le Mali, qui est un État souverain, puisque c'est ce qu'il revendique, c'est un peuple fier. Alors, il faut leur parler avec respect et dignité, de sorte à ce qu'ils puissent prendre en compte nos préoccupations. Il faut qu'on trouve une solution pacifique à cette crise.
Alors, qu'est-ce qui pourra advenir si ce triumvirat de chef d'État qui se rend à Bamako n'obtenait pas la libération de ses soldats? Qu'est-ce qui pourrait advenir, selon vous?
Oh, je ne voudrais pas jeter de colis, mais je me dis, après ce mardi, le président de la République de Côte d'Ivoire utilisera d'autres moyens diplomatiques pour y arriver. C'est cela que je vois. Seulement, la junte malienne pose des conditions, notamment
l'extradition
de certains opposants maliens qui se trouvent sur le sol ivoirien, qui, ma foi, bénéficient de statut de réfugiés politiques. Donc, on ne peut pas, bien évidemment, remettre au Mali en l'état actuel des choses. Et donc, il faudra que la Côte d'Ivoire continue sur la voie du dialogue jusqu'à ce que une issue favorable soit trouvée à cette crise.
Alors, hier, Fofana, il a été question sur les réseaux sociaux, dans la presse, de la fourniture d'électricité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali, dont 20% de la consommation malienne viendrait de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait être un moyen de pression?
Non. Notre pays ne s'inscrit pas dans cette formule pour pouvoir vraiment exercer son pouvoir économique sur un État souverain. Nous fournissons l'électricité au Mali, c'est pas lié, même le carburant du Mali vient de la Côte d'Ivoire quand même. C'est pas le peuple malien à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à une junte qui est au pouvoir, qui a pris en otage des soldats ivoiriens. Nous leur demandons simplement de vraiment libérer nos soldats pour qu'ils reviennent à la maison. Donc la fourniture de l'électricité, le carburant n'ont rien à voir avec cela. Et donc le président même, la République de Côte d'Ivoire, a été très clair là-dessus. Si on peut même faire plus que cela, on pourrait vraiment assister le peuple malien.
Oui, mais les mesures coercitives prises ont été assouplies. Et je crois que c'est à mettre à l'actif du chef d'État ivoirien, qui lui-même a œuvré à ce que quelques sanctions sur le Mali soient levées. Et c'est ce que la junte doit voir dans son viseur et ne pas considérer la Côte d'Ivoire comme un État belligérant à leur cause, mais qui demande que certaines postures démocratiques soient adoptées au Mali. Vous avez entendu le chef de l'État ivoirien qui appelle rapidement que le peuple malien aille aux élections et que la junte malienne quitte le pouvoir. De toutes les façons, pour moi, Et en ce qui me concerne personnellement, les militaires n'ont rien à faire au pouvoir. Les militaires n'ont rien à faire au pouvoir. Et donc le Mali gagnerait à pousser de plus en plus cette junte-là à aller vers des postures démocratiques, à aller vers des élections, afin qu'un pouvoir civil s'installe et que les relations entre les différents États qui entourent même le Mali ne partent pas en déliquescence. Parce que des militaires au pouvoir, c'est forcément la force au pouvoir, c'est forcément des déviations auxquelles on pourrait assister. Et il ne faut pas que le Mali tombe dans ce jeu. La Côte d'Ivoire ne voudrait pas aussi porter, j'allais dire, la souffrance du peuple malien sur ses épaules. En coupant le courant, on peut le faire. On peut le faire. Il y a beaucoup de dispositions que la Côte d'Ivoire peut prendre, mais je ne suis pas sûr que c'est à cela que nous voulons arriver.
Cheikh Fofana, est-ce que il faut plutôt envisager des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali? Est-ce qu'il faut recourir encore à de nouvelles sanctions pour forcer la junte à une solution rapide et pacifique?
Non, ce n'est pas nécessaire. Comme l'a dit le frère, le président de la République, même Alassane Ouattara, il s'est impliqué à lever les sanctions. Donc on ne peut plus revenir encore en arrière pour renforcer encore ces mêmes sanctions. Nous les encourageons à aller aux élections. Et je pense que le chronogramme est très clair, c'est courant février ou mars qu'ils vont organiser les élections. Comme il est très bien indiqué, et on les encourage pour avoir une sortie de crise rapide à travers les élections, pour qu'un régime civil s'installe, parce que les militaires au pouvoir, comme l'a dit le frère, c'est pas bon avec les armes. Aujourd'hui, le défi qui nous anime dans la sous-région, c'est de combattre le djihadisme, le terrorisme auquel nous faisons face, parce que c'est pas important si nous mettons pas ensemble. C'est pour cela que le président de la République, dans son allocution à l'ONU, a dit qu'il y a une école ici qui est là, qui est ouverte et qui peut former à faire face au terrorisme. Et je crois que nous devons le féliciter et féliciter encore nos dirigeants pour vraiment s'engager à combattre le terrorisme dans la sous-région.
Bien, messieurs, nous allons vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez cette actualité, mais cette fois sans illustration sonore. C'est la célébration le 21 septembre dernier de la Journée internationale de la paix. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est « Mettre fin au racisme et bâtir la paix ». Alors, il est vrai que la crise russo-ukrainienne impacte le monde entier. On s'en rend compte aujourd'hui, on se rend compte de la valeur de la paix aujourd'hui pour le monde. Au-delà d'une journée dédiée comme celle-là, comment est-ce qu'on peut bâtir la paix, selon vous, notamment en Côte d'Ivoire, qui a longtemps couru après la paix?
Oui, la Côte d'Ivoire a couru après la paix. Oui, 20 ans de crise que nous avons connue, la Côte d'Ivoire a couru après la paix. Mais comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot, un vain mot, c'est un comportement. Et si la paix doit être le comportement de chaque Ivoirien, cela devrait commencer déjà par être enseigné dans nos écoles. La posture de paix, le comportement de paix doit commencer dans nos écoles, ça doit commencer dans nos familles. Et chaque Ivoirien devrait se dire que il doit porter ça à bout de bras et à chaque occasion éviter, sinon se faire l'apôtre du bon ton, comme l'a dit le général feu Robert Guéhi. Il faut être donc apôtre du bon ton. Et une journée, oui, c'est bon pour reconnaître que la paix est une denrée importante. Pour moi, ce n'est pas la fête de la paix qu'on fait, mais c'est la recherche permanente et c'est un rappel de la recherche permanente de la paix, cette journée du 21 septembre. Rappelons au monde entier qu'en vérité, nous devons rester en paix pour évoluer et bâtir un monde meilleur. Et donc, ça doit faire partie de notre comportement. Et chaque Ivoirien doit être appelé à cela.
Cheikh Fofana ?
Pour la paix, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Nous partons d'abord la formation du gouvernement avec la création d'un ministère consacré à la réconciliation nationale. Ce ministère initie des tournées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même à l'étranger pour parler de paix et promouvoir le vivre ensemble. Vœux chers à notre leader Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Toutes ces initiatives pour dire que tout est fait pour le gouvernement. Il faudra que donc, en tant qu'acteurs politiques, nous devons galvaniser nos partisans et sympathisants à suivre la voie ouverte par le président de la République qui récemment, pour la paix, a fait appel aux deux anciens présidents, et je cite nommément Henri Konabédié et Laurent Gbagbo. Aussi, chacun de nous devons faire en sorte que la paix devienne notre seconde religion, comme l'avait espéré fait Félix Houphouët-Boigny. Vous avez même vu, le président Alassane Ouattara était récemment à Rome. Il a été félicité par le pape pour cette paix que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Mieux, il y a une messe d'action de grâce pour la paix dans notre pays. C'est autant de symboles, des signes qui doivent nous encourager à positiver sur nos lendemains.
Bien, c'est la fin donc de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait M. Yahya Fofana, le président du MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir, et M. Lianyan Ferdinand, vice-président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. J'ai bénéficié de la réalisation technique d'Antoine Kouassi. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.